Ce chiour est dédié pour les frères Shemot de Patrissa Myriam Bat Odet Chaya. La question de
Adar Chaim. Donc, comment arriver à distinguer les bons choix, faire ses bons choix dans la vie. Pour l'Aliya, mariage, travail, savoir si est-ce qu'effectivement je dois venir ici, je dois venir ici. Pour toutes les personnes qui m'ont.
Quelle est la question? Quel est le problème? C'est pas clair.
Ouais, non, c'est pas clair. En fait, savoir choisir, enfin, pouvoir choisir. Entre rester en France. Les deux côtés, en fait. Voilà, est-ce que c'est. Est-ce qu'on peut dire, voilà, c'est le Yetzara qui me dit ça, ou c'est pas Yetzara?
Quand j'ai un choix à faire, comment savoir si c'est l'appel du Yetzara, l'appel du Yetzara Tov, comment faire de l'ordre? On est confus d'habitude.
Voilà.
Bon, alors, en général. S'il y a un choix où il peut y avoir du Yetzara, si je vais au restaurant et je vais choisir maintenant entre poisson et viande, c'est pas trop compliqué, ok. Alors, si maintenant il y a un choix, Shidour, Israël, Yeshiva, travail, quelles études, et il peut y avoir une entrée du Yetzara, ça veut dire des arguments qui sont pas de la pureté, qui viennent pas logiques, du genre « oui, mais c'est dur » ou « j'ai peur », d'accord. Ce ne sont pas des arguments qui sont logiques. Comment distinguer? C'est très simple. D'abord, savoir que c'est normal qu'on soit confus. Parce que pour faire un choix qui soit juste, il faut que ce soit un choix qui soit tout à fait rationnel, sans aucune entrée de sentiments, que les sentiments ne soient pas mêlés. Or, ils sont mêlés d'habitude, parce que c'est moi qui suis concerné. Je peux que si quelqu'un d'extérieur à moi pose la même question, je peux lui donner une réponse extrêmement rapide. Et quand c'est moi-même qui suis concerné, il y a une entrée très grande d'intérêt, de peur, d'angoisse, qui fait que ça devient extrêmement flou. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, on fait le travail soi-même, qui est assez dur, mais c'est possible, ou on va voir quelqu'un qui nous aide. En quoi consiste le travail? C'est très simple. On prend une feuille, on met des arguments pour, contre. Et que des arguments qui sont rationnels. D'habitude, c'est assez rapide. Tac, 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 tac. On peut voir vers où penche plus la balance. C'est facile à faire. Quand on arrivera à la solution X, tout de suite viendra le Yetzara, nous dira oui. Ce qu'il ne peut pas dire autrement, parce que la démonstration, elle est claire. J'ai pris tous les arguments, j'ai fait le pour, le contre. On fait soustraction, addition, d'accord, hein, pas la différence. Hop, ça penchera ou là. Donc tu as la réponse. Mais Sarah te dit, oui, la réponse est logique, mais, et tu vois que là-bas, il n'a rien à dire. Oui, oh là là, ça me fait peur, ou ça me saoule. Oui, mais bon, que vont dire les gens? Ou peut-être que toutes sortes d'arguments qu'ils n'en sont pas. Parce que les arguments qui sont vraiment des arguments rationnels, on les a tous déjà cités. Donc c'est fini, qu'est-ce que tu as à dire? Preuve en est que tu me dis oui. S'il veut dire non, argumente. On va des arguments. Il ne peut pas dire non, parce que les arguments, on l'a tous mis. Donc il va dire oui, mais. Chaque fois que quelqu'un te dit oui, mais, c'est fini. Il ne faut même pas écouter la suite. Il t'a dit oui, terminé. Le « mais » provient des parties animales de l'être. On a deux parties en nous, une partie qui est rationnelle, une partie qui est animale. L'animal, il veut se reposer, il ne veut pas se casser la tête, il ne regarde pas le futur, même si maintenant tu le trouves par plus que ce sera mieux là-bas à long terme, mais à court terme, si tu maintenant faire un effort, ok, laisse tomber, on verra plus tard. Par exemple, d'accord, toutes sortes d'angoisses, de peur, de paresse, de quand dira-t-on, c'est très très beau. Je crois que j'ai cité ça dans un cours dernièrement. Mon gendre m'a raconté qu'il a un copain qui a 30 ans, toujours pas marié. Dans le monde orthodoxe, ça veut dire qu'il a déjà 60 ans. Quoi. 30 ans, c'est très vieux dans le monde orthodoxe. Alors, tu vas le rajouter main, lui demandant sur quel point il a beaucoup d'exigences. D'accord, il veut une femme qui soit comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et sur quel point il doit commencer à faire des rabais. À 30 ans, il comprend qu'il doit faire quelques rabais. Il ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. Le Rav Shlomo lui a dit, tu fais rabais sur rien, aucun point, à part les points qui proviennent du camp, dira-t-on, qui proviennent des gens. Ta mère, elle veut pas que ça soit une Marocaine, ton père, il veut qu'elle soit riche, que les copains veulent qu'elle soit blonde, toi, il faut que... Tout ce que les gens disent autour, entre nous, c'est 90% des raisons qui font que... Ça, tu bases. C'est tellement beau, tellement grand, d'accord. Tu gardes tout, parce qu'il n'y a aucune raison de faire des rabais, mais sur les points qui sont des points qui sont crétins, c'est très souvent ce que les gens vont dire autour. Alors ça, par exemple, quand tu fais une argumentation, d'accord, tu ne vas pas dire « oui, mais les gens vont dire ». Ce n'est pas un argument, c'est bidon. Une fois que tu es arrivé à la conclusion « oui, c'est ça qu'il faut faire », vient l'argument du « etc. » « oui, mais qu'est-ce que je veux dire aux gens? Qu'est-ce que je veux dire à mon entourage ?»« Je vais à l'Eshiva », du genre « je vais à l'Eshiva ». Mais oui, mais les gens vont dire « t'es fou ». Ah ouais, c'est dur. Il y a mes parents qui s'opposent et tout ça. Il y a toute une armada de... Surtout pour venir à l'Eshiva, d'accord. En Israël aussi, mais l'Eshiva, c'est déjà quelque chose... Par exemple, d'accord. Ou toutes sortes de choses de ce type-là. Tu vas trouver une fille qui est très bien, ouais, par exemple. Voilà, elle est divorcée. Divorcée avec un enfant. Et toi, t'es pas divorcée, t'as rien, t'as vu, tout va très bien. Mais bon, tout va très bien. Alors, tu te maries ou non? Bah, si t'es sur une île déserte tout seul, ouais, tu te maries sans problème, elle est bien, la fille. Puis là, mais les gens vont parler autour, tatati, tatata, tatati, tatata, et mes parents, et les beaux-parents, etc. Et beaucoup d'arguments n'en sont pas. Beaucoup proviennent du Yetzirara, de pulsions négatives, mensongères, qui veulent notre fin. Mais ça, le penchant du mal, il est vivant, il est présent chez nous. Donc le moyen de définir qu'est-ce argument provient du Sahara, lequel ne provient pas du Sahara, c'est comme j'ai dit, tu fais une argumentation qui est rationnelle. Et là-dedans, tes arguments bidons, tu vas pas les mettre forcément. Tu arrives à la conclusion, froidement, imagine que tu le fais pour quelqu'un d'autre. Froidement, dès que tu as la réponse, c'est ça. Et tout le reste, il faut l'oublier. Il y aura des attaques terribles. Des attaques terribles du Sahara. Parce qu'il est présent. Si tu es fort, c'est ça la guerre. Tout le but de notre venue sur Terre, c'est arriver avec le Yetzirah. Ça veut dire quand j'ai un choix à faire, arriver à savoir ce que mon choix provient d'un raisonnement logique, objectif, sans qu'il soit mêlé aucun de mes sentiments, ou non je suis mes sentiments. Ça, c'est la bataille de toute la vie. Pour tout, chaque seconde, presque chaque seconde, on a des choix pareils.
Oui, mais en même temps, le côté sentimental, il intervient. Si je vais en Israël ou dans les Yeshiva, c'est aussi mon cœur qui parle. Je vais en Israël parce que j'aime Israël, je vais en Yeshiva parce que j'ai envie d'étudier et que ça me plaît.
Oui.
C'est pas juste le côté raisonnable.
Non, mais
c'est pour ça de dire, c'est pas le côté...
C'est un argument raisonnable, ça. J'aime Israël, c'est un argument raisonnable.
Non, mais le cœur, il intervient aussi.
Quand je dis raisonnable, ça ne veut pas dire que le cœur n'existe pas. Je dis, est-ce que l'argument, il provient... de la raison, et la raison peut comprendre que le cœur est attiré. Oui, donc c'est un argument raisonnable. Ça provient maintenant d'une paresse, d'un candidat-on, d'une angoisse non fondée. Par exemple, monter en Israël, oui mais c'est dur. Les gens disent que c'est dur. C'est vrai que c'est dur, mais t'as pas un argument maintenant. Parlons de la Alia. Pour qu'une Alia soit réussie, il faut certains critères. Il y a des gens qui viennent comme ça, Dieu aidera. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Aide-toi, et Dieu t'aidera. D'accord. On doit d'abord où j'atterris. Maintenant, est-ce que j'ai un moyen de subsistance? Si je suis marié maintenant, où je vais habiter, dans quel quartier? Avec quelle influence? Les écoles pour les enfants. C'est des trucs basiques. Sans ça, on ne commence pas. Donc ça demande du travail. Une fois que j'ai les réponses à toutes ces questions-là, et que ça a l'air logique, ok, alors la logique me dit, ok, bah c'est bon, pourquoi attendre? Il n'y a aucune raison d'attendre. Maintenant, il est vrai qu'il est écrit que la terre d'Israël s'acquiert avec souffrance. Alors, ça veut dire que ce n'est pas facile. Alors, est-ce que ça rentre dans l'argument de, ok, pas facile. Bon, mais si c'est juste, c'est ce qu'il faut faire, et ce n'est pas facile, ok, on le fera bien que ce n'est pas facile. C'est pas l'argument du genre, l'angoisse, ça va être difficile, ce n'est pas un argument rationnel. Mais dire que mon cœur... j'ai envie d'étudier la Torah, j'ai envie de me marier, j'ai envie de monter en Israël, c'est un argument rationnel, c'est notre Neshama qui parle, dans le cœur, t'as les parties animales, t'as les parties divines. Quand une partie divine qui parle, c'est bon, il n'y a aucun problème, ça fait partie des arguments rationnels. Quand je dis rationnel, ça ne veut pas dire que je ne prends pas en considération les sentiments. Je prends des sentiments qui sont logiques, qui proviennent, on va dire, de la sainteté, qui sont bien, et j'éradique tous les sentiments qui sont des sentiments non rationnels, du genre, comme je dis, angoisse, peur, qu'en dira-t-on, des choses de ce genre-là, que tout le monde comprend que ce n'est pas un argument dans la balance. Qu'est-ce que les gens vont dire? J'en ai fait. Qu'ils disent ce que moi, je vais réussir ma vie. C'est ça le but. Des fois, dans l'argumentation elle-même, on a un manque d'information. Des fois, il nous manque d'informations. Alors, il faut trouver les informations. Très souvent, le doute provient d'un manque d'information. Il faut aller chercher l'information et la voir. Des fois, quelqu'un me dit « oui, mais je ne sais pas ce que je vais faire ». Ou par exemple, je veux faire cuisiner, mais je ne sais pas comment est-ce qu'il y a des écoles. On va vérifier. D'accord, il faut vérifier. Il faut de l'information. Deuxième bug qu'il peut y avoir, des fois, ce sont des choix qui sont vraiment difficiles. C'est-à-dire que j'aurai toute l'argumentation, très claire, tout à fait rationnelle, objective. C'est pas clair qu'est-ce qui a plus de poids ou pas, dans un chidour, par exemple. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience, un chidour, il ne sait pas très bien qu'est-ce qui est essentiel comme point, qu'est-ce qui est accessoire. Alors, il met les points, il a fait 4-5 rencontres maintenant, bon, ça devient sérieux. Il y a des défauts, il y a des qualités. Qu'est-ce qui est primordial, qu'est-ce qui n'est pas primordial? Là, c'est la peine d'aller voir un sage, par exemple, chez d'autres, toute autre question, d'accord? Qu'est-ce qui est important comme argument? Parce que pas toujours on sait donner le poids juste à un argument. Des fois, on croit que c'est accessoire et c'est super important. Prenons un exemple. Allez, un chez d'autres maintenant, je ne sais pas moi. Il y a un problème psychiatrique, léger. La bonne femme, la femme, elle est très très bien, d'accord. Alors elle met d'un côté, Cathy, il est super mignon. Bon, c'est même un exemple grossier, d'accord. Il est mignon. Mais problème psychiatrique, ça veut dire, ça peut être des galères très longues, d'accord. Mais il est mignon. Prenons autrement. La méthode, hélas, que utilisent beaucoup de gens pour trouver leur conjoint, hein, c'est d'abord, ils tombent amoureux. Une fois qu'ils sont bien amoureux, ils se posent la question, est-ce que c'est vraiment lui qui doit être mon conjoint ou ma conjointe? Le problème, c'est que quand on est déjà amoureux, le jugement qu'on doit faire maintenant, objectif, entre guillemets, soi-disant objectif, est-ce que ce type-là peut être mon conjoint ou est-ce que c'est vraiment le mari qu'il me faut ou la femme qu'il me faut, forcément, il est faussé. T'es amoureux. Donc, dire non, ça impliquera une souffrance terrible. Donc, bien que dans le jugement qu'on fait, on voit que ça penche plus vers le mal, on fait des rectifications, on commence à agrandir les qualités, qui sont très petites, on commence à minimiser les défauts qui sont très gros, et mazal tov, baruch Hashem. Ça, c'est un choix négatif. Pourquoi il a été motivé? Par de l'amour aveugle. On appelle ça aveugle, parce qu'il a l'amour, comme n'importe quel autre sentiment, il fausse le jugement. Maintenant, j'ai dit auparavant que le cœur aussi à prendre en considération. Mais si le cœur, maintenant, il me fait faire une erreur.
Comment savoir?
Alors, on fait l'argumentation, on prend les qualités, on prend les défauts.
Ah oui,
alors, si maintenant on est déjà amoureux, ça va être difficile pour nous. Alors, dans les cas, justement, où, même si on fait maintenant toute l'argumentation très claire, c'est pas clair à nos yeux parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est accessoire, qu'est-ce qui est essentiel, quel poids donner à chaque argument. Là, il faut aller voir un sage. Si c'est une petite question, un petit rabbin, c'est une grosse question, un grand rabbin, et si les rabbins intelligents, eux-mêmes, s'ils savent que c'est trop lourd pour leurs épaules, ils disent qu'il faut avoir un gadol, un grand datora, et eux sont habitués, la chance qu'ils en ont des milliers par jour comme ça, et c'est des grands datora, et d'habitude, ce qu'ils disent, c'est la voix de Dieu. Et là, on ne bouge pas de ce qu'ils ont dit.
Et pour rester dans le cadre du mariage, donc pour le zibourg, moi je sais qu'autour de moi ça n'arrête pas de venir, mais puis en Israël, ton mazal est ici. Pourquoi il serait plus ici qu'au Groenland ou en Asie du Sud-Est? C'est-à-dire que si Hachem il veut m'envoyer quelqu'un, il me l'envoie où que je sois. C'est-à-dire que c'est pas une histoire de probabilité, parce qu'il y a plus de filles ici, que je vais le trouver. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si je suis en Tahiti...
D'abord, d'après la Torah, c'est vrai que Hachem peut t'amener ton mazal où que tu te trouves. Maintenant, des fois, Dieu fait, on va dire, il ouvre une voie presque miraculeuse, il peut le faire, il n'a aucun problème à le faire, mais ce n'est pas toujours qu'il fait comme ça. Nous, on a notre ishtadlout aussi, d'aller dans l'endroit où j'ai plus de chances logiques de trouver mon chidour. Au Groenland, bon, tu peux aller au Groenland. Tu comprends comme moi que pourquoi Dieu m'amènerait mon chidour au Groenland? Ben, tu peux dire, ouais, il peut me l'amener, c'est vrai. Tout le monde sent que c'est pas... Oui, ok, mais pourquoi il te ferait ce grand cadeau que, bon, par quel mérite, d'accord? S'il y a plus de propositions de chidour en Israël qu'en France, c'est pas clair à mes yeux, mais ça se peut, d'accord. Alors, effectivement, pourquoi pas venir en Israël? D'autant plus que c'est le mouvement aujourd'hui. Bon, je pars un petit argument en passant. D'accord, le mouvement est venu en Israël aujourd'hui, pas quitter Israël. Enfin, en plus, d'après la Torah, c'est marqué « Machel Makom, Machel Mazal ». Celui qui change de place, il change de mazal. Donc si tu as déjà ramé, galéré, puis rien qui se passe, peut-être change d'endroit. Il faut choisir, ou Jérusalem ou Groenland. Bon, ça dépend si on aime la chaleur ou le froid.
Pas trop.
Voilà.
De manière générale, pour au niveau des choix, des cours de choix, que ça peut être pour du travail ou pour autre chose, ou je sais pas, pour un appartement, j'en sais rien. De manière générale, c'est, plus ça va être, ça va se rapprocher de Torah et Mitzvot, plus c'est, ça arrive.
C'est clair que l'argument numéro un qu'on doit prendre dans tous les choix, dans quelle mesure ce choix que je fais est compatible avec ce que Dieu désire de moi. Et Dieu ne désire pas forcément que j'ai une belle-mère, enfin peut-être oui, d'accord, mais les désirs primordiaux de Dieu, c'est que tu te rapproches de lui. Donc si tu prends un appartement qui est très bien, mais du point de vue spirituel, ça ne va pas, bah, ça ne va pas. C'est clair. C'est clair. Idem la femme, idem le travail, idem tout. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver un travail honnête. J'ai quelqu'un de mon bureau aujourd'hui, il m'a dit, je suis très content, parce que j'ai trouvé un truc qui a l'air complètement indépendant. Je cherche pour ma femme et je vois combien c'est compliqué. Un, il bosse pour une boîte, il fait son boulot, puis c'est tout. Puis l'autre, c'est aussi le commerce. Alors, il demande, par exemple, pour la pub. Lui, il a vu. Par exemple, les gens disent 5 soldes. Il dit, c'est faux, c'est pas le solde, il n'y a aucune solde. Il met de solde, il met 50% de rabais, il n'y a aucun sac. C'est du mensonge, d'accord. Je peux faire ça ou pas? Bien sûr que non. Est-ce que je peux maintenant faire une belle photo du produit? Je dis, tu peux. Parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait le produit tel qu'il est, qu'on le voit comme ça, mais bon. Les gens comprennent, ils savent très bien que l'emballage... Je racontais souvent que j'ai... Il y a des dealers qui vont... dans les écoles, quand ils ont 12, 13 ans comme ça, ils leur donnent un peu de shit comme ça, gratuit, pour addicter les enfants, puis après, ça en fait des addictés à vie. On fait la même chose, pas avec du shit, avec pire, les journaux. On reçoit tous les jours 2 à 3 journaux gratuits dans notre boîte aux lettres. Avec des tas de pubs partout. Moi, j'arrive directement à la poubelle, même pas regarder. Parce que la pub, c'est du mensonge. On te raconte des histoires, sans cesse. On nous prend pour des nigauds. Alors je vois mes filles comme ça des fois, elles boivent leur coca, ou je sais pas, avec, elles vivent avec passion. Alors j'expliquais, c'est rien du tout, c'est du mensonge. Je dis, écoute, trouve-moi une pub sans mensonge, tu auras 10 shekels. Pour elle, c'était beaucoup d'argent, d'accord, 10 shekels. Ça n'existe pas. Une pub sans mensonge, ça n'existe pas. La meilleure pizza de la ville. Les plus belles perruques. Rien que la photo de la perruque, d'accord. On vit un monde de mensonges. Et les gens, à cause de ça, ils voient tellement de pubs, ils savent très bien que c'est un mensonge, ils perdent leur sensibilité à la vérité. Eux-mêmes, ils mentent. Énormément. Les personnes, nous mentons par jour au moins 10 de fois. Facilement. Alors, Mesdames Abba Shaoul, il a dit, son fils m'a dit que son père lui a dit un jour, ça fait 38 ans que je n'ai pas dit un mensonge. Et il disait un mot, il écoutait. Un mot, il disait, un mot, paf, dans le ciel, on tranchait comme ça. Il est Emmet. Il mange jamais ce type-là. Ce qu'il dit, c'est vrai, donc il faut que ce soit vrai. Le travail aujourd'hui, si tu vis dans. C'est très souvent, c'est. Ou bien tu fais du commerce, donc tu es obligé de. Enfin, les gens appellent ça là. Une fois, j'ai fait un cours sur la vente ici, vous allez. Mais ils étaient tous choqués, on ne peut plus vendre. Vente signifie mentir. C'est à peu près synonyme. Maintenant, tu vas dire, ok, alors j'ai ton petit boulot en tant qu'employé. Mais employé, mon cher ami, c'est employé 60 minutes par heure. Et le papier que tu prends, l'électricité que tu prends, les trucs, tout le long. Du vol.
Il y a une certaine tolérance, quand même.
Alors, si c'est dans la tolérance, ça va. C'est vrai. Il faut demander au patron combien de temps vous permet par heure je peux ne pas travailler. Il y a des études qui ont été faites. Je crois que les gens travaillent 30%. 30% du temps pour lequel ils sont payés. 70% de vol.
Ça, c'est compliqué, alors.
Très compliqué. Très compliqué. Il faut acheter une vache. Tu vas traire le lait, tu vas vendre le lait, voilà, terminé. Sans pub, sans rien, tu es avec ta vache, tu ne mens à personne. Non, c'est pas quoi te dire, c'est très compliqué, c'est trop, le monde du travail. Le Rav Israël Salanter raconte qu'il y avait un shochet, un égorgeur rituel. Et il commence à veiller, tu vois, il dit, je crois que je vais arrêter d'être shochet parce que ma main tremble et j'ai peur, grâce à Shalom, de faire une bête qui soit taref. Il lui dit, qu'est-ce que tu comptes faire? Je compte, ouais, peut-être une petite épicerie comme ça, hein, genre des trucs. Et ça, t'es au courant? Quoi? Il dit, tu sais, pour être shochet, il faut apprendre 18 chapitres dans Shulchan Aruch. Pour avoir une épicerie, il faut apprendre 3 shemishpat, environ 300 chapitres. Tu les connais? Comment tu peux ouvrir une épicerie? T'es les lois de prêt, les lois de vente, les lois d'achat, les lois de crédit. Plus encore, il y aurait des ribites, crédit, intérêt. C'est pas facile. Il y a des lois qui gèrent tout ça. Pas facile. En tout cas, donc, pour revenir à la question, dans le choix du métier, il faut se renseigner sur l'honnêteté du métier. En premier, aujourd'hui, c'est une chose qui est rare. Il y aura la bracha. Tout le monde sait que les métiers à magouille, à long terme, ça ne paye pas. Tout le monde le sait. Que les petits jeunes qui n'ont pas compris et qui en continuent encore, qu'est-ce qu'il reste? J'en ai eu beaucoup comme ça. Plus rien, ils ont pas ils étaient millionnaires, ils n'ont pas un penny. L'argent tordu. Au contraire, t'es droit, t'as et olamazé, t'auras la bracha, et olamaba. T'es droit. On arrive bientôt à Yom Kippour, je dis ça souvent. Dans cette période-là. Et pour le Rav Israël Salanter, qui est un des grands de Moussard, où tout et où il étudiait les lois de vol. Prochain Mishpat, apprends à ne pas voler. Apprends la Shonara, apprends à faire attention à tes yeux. Le vol, première chose. C'est écrit, quand tu as une caisse de péché, quel est le péché qui crie le plus dans tous les péchés? Le vol. Donc on veut être maintenant pardonné. Tu as un péché là qui empêche. Il crie. Il m'a volé. 2 euros. Il faut revenir en guilgoule pour ça. Réincarner toute une vie pour payer 2 euros, c'est pas malheureux. À Yom Kippour, on a 5 prières. Tous les jours, maximum, on a 4 prières. Yom Kippour, ce jour de l'année, on a 5 prières, par rapport aux 5 niveaux d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. La dernière, Naïla, Yechida. On ouvre. Toutes les prières se font avec le Echal ouvert. C'est rien que je vous parle maintenant, j'ai des frissons. D'accord, la Neïla. On commence la Amida, on fait 3 premières brachot, après tu as le texte intérieur qui change entre chaque type de prière. La première chose qu'on dit dans la Neïla, on dit quelques phrases, etc. Mais la première chose où on parle à Hachem de notre situation maintenant à Yom Kippour. Dieu nous dit les Ma'an, Nihdol, Me'oshek, Yadeno. Qu'on arrête de voler. Avant tout, Dieu, ce que tu demandes. C'est la logique première des choses. Tu as des gens qui sont des fois religieux, soi-disant, d'accord, le Metfilin, Shabbat, tout ça. Mais le vol, ce n'est pas dans Shulchan Aruch, ça n'existe pas. Première chose d'un type, sois honnête. Oh, oh, combien il y a du travail là-dessus. Donc quand on choisit un travail, regardez d'abord qu'il soit honnête. On était en contact avec une boîte ici, avec la Yeshiva. Il y avait un truc, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en deux mots, il proposait une chose, on paye maintenant tout, ou on paye échelonné, mais plus cher. Le type qui gère cette boîte, il est religieux. J'appelle lui, mais c'est Ribbit. Ribbit, c'est pré-intérêt. Il me dit, mais tout le monde fait comme ça. C'est comme ça que fonctionne le pays. Le pays fonctionne comme ça, mais c'est ribbit, c'est interdit de horaïta. Celui qui fait ça ne se lève pas très tamétine, la résurrection des morts. Même la secrétaire qui fait juste crédit, ou le type à la banque qui fait ça, tout le monde, toute la chaîne, du prêteur à l'emprunteur, tous ceux qui ont participé à ça, ils transgressent le péché. qui ne fait pas ça aujourd'hui? Il faut savoir. Tu vas acheter un habit dans un pantalon. On est loupé, voilà, c'est 100 euros maintenant, ou 120 étalé sur 4 paiements.
Le service du fait que tu ne payes pas d'un coup, mais tu payes en 12 mois. Alors,
ça s'appelle, c'est quoi REBIT? REBIT, c'est quoi prêt à intérêt? C'est que je te prête maintenant de l'argent. En contrepartie que cet argent, j'aurais pu l'utiliser maintenant pour faire autre chose. Je suis gentil, je te prête 1000 euros. J'aurais pu investir, j'aurais pu faire des affaires, j'aurais pu gagner de l'argent. Toi, en dédommagement, je te demande de me rendre 1100 euros. 1001 euros. 1000,0001 centimes d'euros. C'est du REBIT d'Oraita.
Il
n'y a pas un. Avec les goïms, on peut. Pourquoi? Parce que ce que les goïms considèrent comme normal, on peut faire avec eux. Par exemple, la chanara, chez les goïms, quand une chose négative sur quelqu'un, mais elle est vraie, c'est légitime. Tu dis, mais attends, tu dis quelque chose qui est méchant. Oui, non, mais c'est vrai. Toutes les nouvelles, c'est ça. Tous les médias, c'est ça. Si on ne peut pas parler de la chanara sur Trump, il n'y aura plus de... Il n'y aura plus de médias, d'accord. Donc, ce que les goïms considèrent comme normal, nous, on peut faire avec eux aussi. Donc, pour eux, c'est normal que, vu que tu me prêtes de l'argent, je te dédommage. La Torah interdit ça, entre juifs. Extrêmement grave. Dans n'importe quel magasin tu veux faire en Israël, ils proposent ça. Alors, s'ils te disent maintenant, un des deux côtés, ça coûte 120 sur 3 mois, tu peux payer 120. Ou ils te disent, ça coûte 100 maintenant, tu payes 100. Mais si tu te dis, c'est ou ça, tu es obligé de payer tout maintenant. Si tu choisis l'option d'attendre, c'est du REBIT.
Tu prends avec ou c'est que lui qui prend?
Les deux. L'emprunteur et le prêteur, les deux transgressent. Alors, à la banque, ils ont découvert une combine qui s'appelle Eteriska. Allez, en 2 minutes, on a juste le temps d'en parler. Eteriska. C'est une combine. C'est pas génial, mais c'est mieux que rien. C'est que, c'est pas la... On va dire, t'empruntes ou tu prêtes à la banque? On va dire, t'empruntes à la banque. T'empruntes à la banque... Et tu rends plus. Comment on peut faire ça? Parce que la banque ne va pas te prêter. Elle va s'associer à toi dans tes affaires. Toi, tu vas maintenant acheter une maison. Un beau jour, tu vas la revendre. Tu auras fait un bénéf. La banque te prête, pas te prête, elle s'associe dans ton affaire. Elle te prend maintenant une partie de tes bénéfices.
S'il n'y a pas de bénéfices?
Très bonne question. Et c'est là où justement où le bât blesse, et c'est le problème. Il est associé. Et si lui-même, tu peux lui prouver que tu as fait ce qu'il fallait faire, tu n'as pas eu de bénéfice, tu ne payes pas. Alors une fois, il y a quelqu'un qui a investi. Il a investi dans les actions de la banque. Il a emprunté de l'argent à la banque, investi dans les actions de la banque. Et l'action de la banque lui a dit, oh, écoutez, on a fait, mais on a perdu de l'argent. On n'a pas... Donc je ne vous dois plus rien. De l'intérêt. Jamais de la vie. C'est un risque. Vous êtes associés ensemble. Donc j'ai tout fait comme il faut. Preuve en est que c'est vous-même qui avez fait les affaires. Donc vous savez vous-même que vous avez agi comme il fallait. Donc pourquoi je vous donne un bénéfice? C'est un bénéfice qu'il n'y a pas eu, dont vous êtes responsable.
Il doit juste lui rembourser le prix.
La banque a dit, on n'est pas d'accord. Tout Israël a arrêté, tout le monde, c'était il y a 20 ans, tout le monde a arrêté, tous les comptes, tout ça, c'est plus valable. Le TRSK ne vaut plus rien. Preuve en est qu'ils n'ont pas respecté. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, ils respectent, pas. Bon, normalement, ils sont censés respecter cela. Maintenant, ça c'est si tu vas acheter une maison. Un vrai moyen, qui lui, il est en dette, il est en rouge dans la banque, en over, 3000 shekels, d'accord, et c'est pour acheter son repas. Et la banque, il a 3000 shekels, donc il paye du REBIT, il paye l'intérêt sur son over, comme on dit ça en français, sur son minus, sur son découvert. Pour quelle affaire? Pour manger son pain à la margarine? C'est pas une affaire ça. Alors, ça a voulu dire non, mais il a chez lui à la maison peut-être un portable qu'il peut vendre, il a un lit qu'il peut vendre. Bon, c'est très léger.
Pourquoi un lit qui est, c'est quoi qu'il peut vendre le lit?
On peut dire que maintenant, l'argent qu'il a reçu de la banque, c'est pas un prêt pour qu'il puisse manger, c'est une association aux affaires qu'il fait. Quelle affaire qu'il fait? Il a un lit qu'il peut vendre. Il a acheté un beau jour un lit. Il a un portable qu'il peut vendre. Tu comprends que c'est pas une affaire tout à fait géniale, d'accord?
Pour habiter en France.
Ça, c'est une bonne idée, ouais. Pour éviter la REBIT, il faut habiter en France. Ou bien prendre un compte dans une banque non-juive. Je ne sais pas si ça existe ici, en Israël.
Ça serait bien de faire ça.
Ouais.
C'est un business.
Ouais, très bon business. Baruch Adonai, l'homme va me...